débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. François Villeroy de Gallo prend la parole dans les colonnes des Échos. Il nous dit que la croissance ne suffira pas pour régler notre problème de déficit. Il appelle à une stabilisation de la dépense publique en volume. C'est cette semaine que les agences de notation vont se prononcer sur la note souveraine de notre pays. Alors certains en viennent à souhaiter carrément une bonne dégradation. Une sorte d'électrochoc qui pousserait vraiment cette fois-ci Bercy et l'Elysée à agir sur les comptes publics et la dépense publique. Le bilan 2023 de France Travail, les 523 000 contrôles menés par France Travail l'an dernier aboutissent à un constat que les choses sont stables, c'est-à-dire que la très grande majorité des chômeurs cherchent bien un emploi, 83%. Il y a 17% de chômeurs qui sont sanctionnés plus ou moins durement en fonction des manquements dont ils se sont rendus responsables, avec des radiations qui peuvent aller d'un mois à des durées plus longues. Ce sont donc des chiffres stables. Il n'y a pas une espèce de folie des radiations qui viendrait souvent maquiller la réalité du marché du travail, comme je l'ai si souvent lu. Nous évoquerons également la loi de simplification. Elle arrive, la loi de simplification. On a de plus en plus d'éléments sur ce qu'on pourrait y trouver, notamment le principe « dites-le nous une fois » ou encore le test PME. On fait tester par une PME une mesure avant de l'appliquer. Et puis, la simplification du bulletin de salaire, qui semble être un peu une simplification en trompe-l'œil. Il y aura peut-être moins de lignes, mais que ces lignes soient plus lisibles n'est pas du tout évident. On évoquera aussi cette information de la semaine dernière sur ce fabricant français de panneaux solaires, l'un des derniers qui a fini au tribunal de commerce, en liquidation au tribunal de commerce de Nantes. Entreprise qui dénonçait la concurrence chinoise. Et il y a toujours derrière cette question de la souveraineté. La souveraineté impose-t-elle une dose de protectionnisme ? Bonjour Sophie Sidos-Vicat.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue, vous êtes présidente des conseillers du commerce extérieur de la France, propriétaire du groupe cimentier Vicat et membre du MEDEF Isère.
Oui, tout à fait.
Bonjour Mathieu Plane.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Je vous ferai réagir aux propos de Villeroy de Gallo. Rien d'extraordinaire hein, à côté de ça. Laurent Vronsky. Bonjour.
Bonjour à tous.
Directeur général d'Hervor et secrétaire général de Croissance Plus, membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue. Souvent on dit une bonne guerre, une bonne dégradation. Ah, une bonne dégradation de notes, là. Histoire de mettre un bon coup de surin dans les reins du système économique et macroéconomique français.
C'est quand même triste d'en arriver là. Et c'en est triste d'avoir à souhaiter ce genre de choses. Mais si on en juge à l'aune du courage politique auquel, je dirais, nous avons pu faire face depuis 40 ans, parce que c'est toujours la même histoire, hein, je veux dire, globalement, vous avez des gens qui font des tas de promesses électorales, et puis quand ils sont aux affaires, il y a des bonnes raisons pour ne pas les suivre, et encore plus pour aggraver le déficit de la France. Et je pense que ce qui manque, c'est malheureusement une bonne dose de courage. Et ce que l'on voit, c'est que quand on est capable de dire, de pointer du doigt, de dire, écoutez, moi je voulais faire autrement, c'est pas moi, c'est l'autre, on m'oblige de le faire, avec, en clair, le bouc émissaire rêvé qu'est l'Europe. À chaque fois, c'est toujours la faute de l'Europe. Donc là, ça sera la faute des organismes de notation. Bah oui, on peut espérer que malheureusement, si on a une dégradation de notre note, on ait des gens qui disent, bah, écoutez, moi, je voulais pas forcément le faire, mais là, la politique d'austérité m'est imposée par les autres. C'est assez pathétique. Mais malheureusement, je pense que ça a de fortes chances d'aboutir. Maintenant, il faut pas se leurrer non plus. Il y a des gens qui s'amusent à se faire peur. Je pense pas un instant que mardi à minuit une, si la note de la France est dégradée, ça va changer quoi que ce soit. Ça ne changera rien.
La plupart des observateurs considèrent qu'effectivement, ça ne changera rien. On avait joué à se faire peur en 2012 avec le fameux AAA. Il s'est absolument rien passé. On a eu quand même deux très mauvaises nouvelles récemment sur la correction du déficit 2023, plus 0,6 points au-dessus de la prévision, et la révision de croissance d'1,4 à 1%, qui reste malgré tout assez ambitieuse pour 2024. Zéro effet sur l'écart de tour entre la France et l'Allemagne. Donc bon, c'est un peu humiliant de se faire dégrader. Mais maintenant, on doit être quoi, à 18 sur 20. Si on tombe à 17 sur 20, on continuera à survivre. Mais c'est vrai que je vois souvent une bonne dégradation, ça nous ferait du bien. Mathieu Plane, comment vous regardez la semaine là? Alors, François Villeroy de Gallo dit « Arrêtez de penser que la croissance va nous sauver ». On est d'accord?
Oui, j'allais dire, on le savait un peu depuis le début.
Bah, oui, oui.
Malheureusement.
C'est quand même souvent ce que Bruno Le Maire a mis en avant, la croissance
Non, c'était une façon de rassurer aussi, à mon avis, les investisseurs, les épargnants, les consommateurs, avec l'idée de dire, en fait, on passera pas à la caisse. Et que globalement, ce choc-là hein, qu'on a subi, on l'a amorti avec les finances publiques. Et la question, c'était la reprise de la croissance suffira à régler le problème des déficits et de la dette. Or, c'était presque évident que ce ne serait pas possible. surtout avec les mauvaises surprises qu'on a sur la croissance. Et j'allais dire, c'était un peu le plan A qui était un peu naïf, entre guillemets, hein, de dire on reviendra tranquillement en dessous des 3% de déficit public avec plus de croissance, qui finalement est le bon scénario, celui qu'on aurait aimé tous avoir. J'allais dire, là, on se retrouve face à un plan B qui est beaucoup plus réaliste, qui est celui comment, finalement, on finance le choc et la crise et le quoi qu'il en coûte, en gros, hein, c'est la sortie de crise, avec un scénario de lequel la croissance, elle patine. Et ça, on s'y attendait quand même plus ou moins avec les différents chocs qu'il y a eu. Et ça, ce scénario B, il n'est pas très travaillé, en fait, qui aurait dû être le scénario A.
Ce que vous appelez un scénario B, Mathieu, c'est quand on annonce 10 milliards par surprise d'économie par décret, ce qui ne s'était jamais vu, et qu'à peine 3 semaines ou un mois avant, on remet le couvert avec 10 nouveaux milliards, habilement organisés de manière à éviter d'avoir à passer devant le Parlement avec un texte rectificatif. C'est ça, le plan B.
Et le problème, c'est que ce plan B, il n'est pas très bien travaillé. C'est un peu ce que j'allais dire.
Qu'est-ce que vous dites gentiment ?
Non, mais
qu'est-ce
voilà.
que donc, vous le dites gentiment ?
Donc, en fait, on veut fâcher personne. On veut fâcher personne dans cette affaire-là. Donc, on dit on va pas augmenter les impôts. OK ? Donc, on touche pas ces fiscalités. On va essayer de préserver la croissance et on va faire des réductions de dépenses publiques, mais on sait pas vraiment lesquelles et ça touche personne. J'allais dire, c'est un peu la quadrature du cercle, cette affaire-là. Donc là, on est en train un peu de faire de la politique plus que de l'économie sur cette affaire-là. La question, c'est que ça peut tenir sur une année ou quelques mois, mais si on a vraiment l'objectif de rétablir les finances publiques et revenir en dessous des 3%, ça ne sera pas des économies de bout de chandelle. Hein.
Vous avez vu le rapport du Conseil des finances publiques, qui chiffre à minimum 65 milliards d'euros l'effort budgétaire à réaliser d'ici à 2027.
Et ça, c'est vous prenez 5,5 de déficit public, il faut revenir en dessous de 3, c'est 2,9. Vous avez 2,5 points de PIB. 2,5 points de PIB, ça fait à peu près 70 milliards. Quoi. Enfin, je veux dire... Et ça, c'est sans prendre les effets rétroactifs sur la croissance. Hein. C'est-à-dire en supposant qu'il n'y a pas d'effet sur la croissance, ce qui est un peu d'ailleurs naïf dans les analyses, c'est-à-dire en disant...
Ah ben on sait qu'on a un effet récessif.
La question du multiplicateur, il se pose tout le temps.
François Villeroy-Gallo le répète aujourd'hui. Oui, il y a un effet. Si on coupe un milliard, il n'y a pas d'effet. Si on en coupe 10 et puis 10, oui, il y a un effet.
Bah oui, si c'est vraiment des bouts de chandelle, ça ne fait pas grand-chose. Mais si au bout d'un moment, vous vous désindexez les retraites, vous remboursez moins la santé, si vous faites des économies structurelles assez fortes sur un certain nombre de dépenses, de rémunérations et autres, forcément, ça a des effets. Sinon, les économies magiques, ça n'existe malheureusement assez peu. Ce que je veux dire, c'est qu'on est un peu en déconnexion macroéconomique dans cette affaire-là. Où
ça veut dire quoi, déconnexion
macroéconomique? Il n'y a pas le raisonnement, c'est-à-dire au bout d'un moment, de dire comment on revient en dessous des 3% en disant, si notre objectif principal, c'est ça, combien il faut mettre vraiment sur la table et quels effets il faut attendre? Mais en disant, c'est la priorité, ou alors on dit, on laisse de côté les 3% et c'est une illusion. Voilà, c'est tout. C'est ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on n'est pas dans un schéma qui est très clair.
Mais vous avez raison de poser la question ainsi. J'ai posé la question à Gabriel Attal. Il a confirmé qu'il voulait être sous les 3% en 2027. Ouais. Moi, je me pose la question. Est-ce que dans un moment où la croissance patine et molle et s'annonce mal, est-ce qu'il faut continuer à garder, à s'accrocher à l'équipe de déficit?
C'est exactement ça.
Pour Sophie Sidos-Vicat, votre lecture de la situation? Préoccupé, pas préoccupé par la situation des comptes macroéconomiques du pays?
Alors, parallèlement, oui, pour les entreprises, c'est toujours le même problème. On a toujours à se transformer, cette transition énergétique et écologique qu'on n'arrive pas à faire. Ça nous coûte des millions, des milliards. La CSRD, par exemple, on en parle
assez
souvent.
Alors, la CSRD, c'est tout le reporting extra-financier qui s'installe petit à petit.
Qui s'installe petit à petit et qui, pour les entreprises, nous coûte très, très cher. Je vois, par exemple, pour mon groupe, c'est à peu près 20 personnes supplémentaires. En gros...
Comment ça?
Pour pouvoir 20 personnes pour réaliser cette CSRD, c'est à peu près entre 1 million, 1,5 million d'euros supplémentaires. Qui peut aujourd'hui se payer ce surplus pour finalement de l'extra-financier? Donc c'est ça aussi qui va être compliqué. C'est comment est-ce que toutes ces entreprises vont pouvoir s'adapter, se transformer, et ces réglementations européennes, très bien, si on a une Europe forte et tous ensemble, mais vis-à-vis de l'Asie, je rentre de Hong Kong là hier, je peux vous dire qu'ils rigolent en Chine. Ils sont très contents, toutes ces réglementations.
Ah, continuez à faire de la réglementation et encore de la réglementation.
Et voilà, et nous, on va pouvoir enfin écraser tous vos marchés.
Et vous allez voir, on va simplifier, il y a une loi qui va simplifier, ça va... Mais sinon, est-ce que globalement, la situation des comptes publics de la France, parce qu'on a pris l'habitude, 50 budgets dans le rouge, un 51e l'an prochain, évidemment, est-ce que ça vous préoccupe?
Oui, moi ça me préoccupe.
Est-ce que par exemple, ça vous préoccupe en vous disant, mais les perspectives quand même de stabilité globale du pays, et là c'est la semaine des agences de notation, attention, que va-t-il se passer?
Oui, parce que...
Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça passe tout le temps. y a peut-être un jour où ça passe moins bien.
Oui, et puis là, l'État doit franchement doit montrer l'exemple. C'est à eux de faire des économies, parce que s'ils ne le font pas, ben nous, les entreprises, il n'y a pas de raison que ce soit toujours l'entreprise qui paye à un moment donné. Alors, il y a l'épargne publique, on a tous de l'épargne. Là, on peut peut-être en faire quelque chose, mais pour en faire quelque chose, il faut donner l'exemple. Donc, je pense qu'en effet, si on a une réduction de la dette publique, là, peut-être qu'on pourra toucher à l'épargne publique et avoir un vrai projet de transition écologique.
Alors, Gabriel Attal disait jeudi, justement, regardez, on prend le taureau par les cornes, 10 milliards plus 10 milliards. Je lui répondais que c'était quand même le signe d'un gouvernement mort de faim qui courait après les milliards sans avoir aucune préparation. Et c'est ça qui est un peu problématique, parce que faire des économies, oui, mais la manière dont on s'y prend là, dans une forme d'urgence absolument pathétique en l'espace de à peine 3 mois après le début de l'année... pas forcément très rassurant.
Non,
oui, Mathieu, vous voulez réagir et puis Laurent.
Oui, non, en plus, c'est 10 milliards plus les 10 milliards, hein, c'est avant les 20 milliards supplémentaires.
De 2025.
De 2025 qui n'ont pas été annoncés. Et les 10 milliards supplémentaires, j'ai pas bien compris ce qu'il y avait dedans, hein, honnêtement, aujourd'hui. Ce qui est un peu magique, là, cette affaire, parce que trouver 20 milliards sans effet sur l'économie, la croissance, et pas savoir qui va, en fait, payer ces 20 milliards, juste 20 milliards, l'équivalent. C'est la suppression totale de la taxe d'habitation, qui était quand même la grande mesure du quinquennat précédent. Donc on n'est pas sur du bout de chandelle. Donc j'aimerais bien savoir, effectivement, est-ce que ces 20 milliards sont réellement 20 milliards ? Parce que c'est vraiment un montant qui est conséquent et qu'on ne trouve pas comme ça, juste en faisant des gels de crédit de certains ministères, etc.
Je suis un peu comme vous, là. Je trouve que
moi, j'ai du mal à comprendre.
Les gels de crédit de réserve qui font...
c'est énorme.
Nous avons 5 milliards de gels de crédit de réserve. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment 5... Les crédits de réserve, c'est de l'argent qu'on a sous le coude. C'est une poire pour la soif s'il y a un coup dur.
Ouais.
On a 5 milliards comme ça à la claque de crédit de réserve, alors que déjà les 10 premiers
ils
milliards
avaient déjà été. Voilà.
Donc c'est...
Moi, c'est pour ça que je suis un peu sceptique et de voir vraiment dans la réalité comment ça va se traduire. Et ça, c'est quand même un point important. J'ai l'impression qu'on. Enfin, une fois de plus, on essaye de trouver des économies sans fâcher personne. Or, forcément, il y aura des choix politiques à faire qui sont durs si on veut avoir une stratégie forte de redressement des finances publiques. C'est des montants qui sont extrêmement importants. Quoi. Enfin, il ne faut pas croire que c'est des...
C'est juste montant. On nous annonce qu'on va tordre le bras des collectivités locales à hauteur de 2 milliards et demi.
Mais alors, je rappelle juste, par exemple, sous Hollande, la réduction des dotations aux collectivités locales, hein, quand il y a eu la volonté de réduire les déficits publics, c'est une baisse de 10 milliards. Mais 10 milliards par an, hein, c'est pas une fois, hein, c'est du pérenne. Hein. Et ça a eu quand même des effets, des conséquences. Enfin, les collectivités locales étaient bien sûr pas contentes, mais il y a eu des effets sur l'investissement public local aussi. Enfin, tout ça, il faut le prendre en compte. Je trouve que, voilà, il faut avoir un discours de vérité si on considère qu'il faut réduire ses déficits. Forcément, il va falloir trouver une stratégie globale d'ensemble qui soit la plus efficace possible, mais pas penser que ce soit facile, en fait.
Ou alors, on dit contexte de croissance molle et durablement ralenti égale exit l'objectif des 3%
pour exit. Alors,
parce que François Eckhall défend cette idée. François Eckhall n'est pas un ultra-keynésien.
Moi, je vous dis, enfin, juste après, je vous laisse la parole, mais la stratégie, si vraiment on est là-dessus, c'est de dire, en fait, il faut un plan sur plusieurs années, y compris avec l'histoire des niches fiscales, enfin, moi, je pense qu'il ne faut pas écarter certaines pistes sur la fiscalité. On parlait des fiscalités des rentes ou certaines niches fiscales qui devaient être réduites. Notamment, on parlait des niches fiscales brunes. Qui est un point important, il y a la question de la dépense publique. Bon, bah vous faites un montant, si on parle de 70 milliards sur plusieurs années, et vous essayez de suivre cette stratégie, mais vous ne courez pas vers un objectif nominal de déficit, parce que forcément, s'il y a moins de croissance, vous allez encore faire plus de réduction ou d'austérité, et vous risquez de tomber dans un cercle vicieux qui n'a pas beaucoup de sens. Donc, ayant un plan crédible, y compris vis-à-vis des investisseurs, mettons-le en place, mais il ne faut pas courir derrière un objectif numérique, j'allais dire, déficit. S'il y a plus de croissance, tant mieux. S'il y en a moins, il ne faut pas aller un cran plus loin, sinon vous allez tuer le malade. Quoi.
Normalement, il serait cohérent de considérer que le contexte étant mauvais, ce n'est pas le moment de s'accrocher à un objectif de déficit. Sauf que on n'a jamais su, nous, agir dans un sens ou dans un autre en fonction de la conjoncture. La fameuse histoire de « on répare le toit quand il fait beau ». On n'a jamais su le faire, donc il y a un moment, on se dit... Laurent, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, vous vouliez réagir, allez-y.
Oui, Laurent Wronski. On est lundi matin, donc...
on est lundi matin,
Je ne voudrais pas démoraliser nos auditeurs, mais je voudrais bien qu'ils comprennent quelque chose. C'est que, ce qu'on peut se dire, c'est comme étonnant, la France a des mauvais chiffres, 3100 milliards de dettes, on est en déficit perpétuel et on continue à nous prêter de l'argent.
Oui.
Et la question, c'est pourquoi ? Ben, j'ai une mauvaise nouvelle. La question, c'est parce que le collatéral et la caution, c'est nous tous. Et donc, quand vous regardez le taux d'épargne en France, qui est quand même assez record, en clair, certains se disent, à tort ou à raison, comme en plus la France est passée champion du monde en matière de levée d'impôts, si demain, il y a un petit problème... au niveau du pays pour rembourser la dette, eh bien, nous faisons confiance au gouvernement français pour aller prendre l'argent là où il est et ponctionner les épargnants. Et quand je dis les épargnants, c'est majuscule. C'est tout le monde qui passe à la caisse. Donc ça, il faut en être conscient. C'est nous les cautions.
Absolument. Non, mais c'est la vérité. C'est là, en cas de coup dur.
C'est pas parce qu'on a.
Il n'est pas exclu en cas de coup dur que ce soit un choix politique.
Non, on n'a pas de potion magique, on n'est pas plus intelligent que les autres. Bon. La deuxième chose, je veux dire, quand on parle de s'attaquer aux niches. Pourquoi pas ? Mais je rappelle quand même que si la France était un paradis fiscal en Europe, ça se saurait depuis longtemps. Et il y a un mot qui est tabou, qui fait partie de ces totems. Il y a eu toute une série de totems qui sont égrenés. Il n'y a pas de faux malades, il n'y a pas de faux chômeurs. Et puis la dépense publique, elle est forcément très efficace. Et si on réduit la dépense publique, on va créer de la récession d'une part et réduire l'efficacité des services publics. Je pense que c'est en grande partie un mythe politique. Parce que aujourd'hui, si nous avions les meilleurs services publics au monde, ça se saurait. Tous nos compatriotes peuvent le juger par eux-mêmes. Il suffit de voir la sécurité, l'éducation, l'hôpital, la justice. Est-ce que ça marche parfaitement ? Première des choses. Deuxième des choses, c'est que aujourd'hui, on voit bien, vous avez énormément de gens qui ont intérêt à ce que les choses ne changent pas. Donc, on va faire un petit peu de bricolage fiscal. On va distribuer, je dirais, des sucrettes politiques en disant, vous voyez, ben alors on va taper un petit peu sur ceux qui ont des sous, un petit peu ici, un petit peu à gauche. Comme ça, on calme un petit peu les mouvements, un peu ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Mais la réforme de fond, qui veut dire on part d'une page blanche et on regarde vraiment ce qui est nécessaire pour le pays, c'est ça qu'il faudrait faire. C'est pas faire des mesurettes. Et je pense que ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit que inexorablement, on est en déficit perpétuel. Et alors on nous explique, mais non, mais c'est pas grave, parce que le but d'un pays, c'est pas de faire des profits. Oui, mais enfin, si vous voulez, si on vit à crédit, au bout d'un moment, il peut se passer ce que vous avez d'ailleurs très bien dit. On peut avoir le prêteur qui dit, bah, écoutez, maintenant, soit je ne vous prête plus, soit maintenant, c'est deux fois plus cher.
Et là, on fait c'est le juge de paix. Là, ça se passe. Eh ben voilà. Si ça arrive, ça se passe très mal.
Eh ben, ça se passe très mal parce que ça arrive, sera dans
ça
l'urgence.
Se passe très mal, c'est dans l'urgence. Donc voilà. Et c'est la Banque Centrale Européenne qui serait à ce moment-là la seule à pouvoir calmer le jeu, si tant est qu'elle soit prête à être
jouée d'un donc, état, c'est pour ça. Simplement, ce que je veux dire à nos auditeurs, ne croyez pas que les 3% c'est une coquetterie européenne. Ça correspond à une réalité économique. Et si le pays continue à vivre à crédit et au-dessus de ses moyens, un jour ou l'autre, c'est nous tous qui allons servir de caution.
Alors allez-y, Sophie Sibos-Licaté, Mathieu Plane.
Quand on voit aux États-Unis avec le programme de l'IRA le développement qu'a pris l'Amérique et nous notre plan France 2030, il faut peut-être accélérer un peu. On ne va pas attendre 2030 pour avoir les investissements. Moi, je crois encore en l'économie, je crois encore dans nos entreprises et si on les aide beaucoup plus rapidement, je pense qu'on aura le retour sur cet investissement aussi beaucoup plus rapidement.
On n'a peut-être pas les moyens, Sophie. On a annoncé un plan.
Oui, maintenant, il faut s'y tenir.
On peut pas se permettre comme l'Amérique de tirer nos déficits à 7,5%.
Ah oui.
Voilà, ça c'est pas possible. On peut pas le faire. Là, pour le coup, ça passerait plus. Il y a un moment, ça passerait plus.
Dans le rapport, la lettre de.
Et sinon, il faudrait bien sûr. Oui.
Ça, c'est quelque chose qui est pas mis beaucoup en avant, je trouve. D'ailleurs, dans la divergence de croissance US-Europe, c'est la divergence aussi sur les déficits commerciaux et les déficits publics. Ils sont quand même colossaux.
Monumentaux.
Aux États-Unis, on est à 8% et il n'y a pas du tout de programme qui vise à réduire le déficit public. C'est-à-dire qu'on a une divergence de croissance, mais on a une divergence sur les finances publiques qui devient quand même aussi très forte. Moi, je suis d'accord qu'il faut bien sûr une stratégie de rétablissement des finances publiques, mais il ne faut pas que ça se fasse effectivement au détriment de l'investissement et de la croissance. C'est bien un des problèmes qu'on a eu pendant plusieurs années, et le retard technologique qu'on prend sur un certain nombre de points, sur la productivité. Je ne dis pas que ça passe que par la politique budgétaire, mais si vous n'avez plus de soutien de la politique monétaire avec des taux élevés et une politique budgétaire qui devient extrêmement restrictive, alors ça va se poser une question qui est quand même fondamentale, qui est celle de la divergence des croissances entre Europe et États-Unis. Et ça, c'est vrai qu'on est face aussi à un plan dans lequel on a des besoins d'investissement dans la transition qui ont été chiffrés par le rapport Pisani et Mahfouz. Il y a la loi de programmation militaire, parce qu'on vit dans un monde qui devient de plus en plus insécure au niveau international. Bon, tout ça, j'allais dire, on peut pas le faire comme ça, juste sur un coin de table, en disant, on va faire des réductions de dépenses publiques, etc., de 10, 20 milliards. C'est un nouveau plan énorme, on est confronté à des nouveaux défis énormes, avec des divergences de croissance entre les États-Unis, la Chine et l'Europe, des divergences de stratégie macroéconomique. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il va falloir vraiment prendre conscience qu'on est dans une nouvelle situation et dans un nouveau monde, quoi. Voilà.
Et d'ailleurs, je repensais à ce que vous disiez, Sophie Sibos-Licaté, sur France 2030. Rien n'a été annoncé. Il y en a quand même certains qui craignent justement que, y ait une petite poire pour la soif dans France 2030 et qu'éventuellement, dans la quête d'économie ou de crédit, on décide que peut-être France 2030 passerait un peu à la caisse, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait partie des choses qui ne sont pas totalement à exclure.
Mais par contre, voilà, juste parce qu'on parlait de la dépense publique, plus de 50% de la dépense publique, c'est de la dépense de protection sociale en France.
Bah oui,
en fait, c'est la singularité française, elle est là-dessus.
On est d'accord.
À partir du moment où on exclut les retraités,
Et justement, est-ce que vraiment il faut les exclure?
Eh ben voilà, c'est quand même une question. Est-ce que du coup, on peut dire, on peut redresser 70 à 80 milliards les comptes publics sur la dépense sans dire, sans faire un effort collectif, y compris du côté des retraités? Voilà, c'est une question. Enfin, déjà, en excluant ça, vous n'êtes pas crédible, moi, je trouve. C'est-à-dire que, forcément, vu les montants budgétaires en jeu, vous devez mettre tout sur la table et vous ne pouvez pas exclure des postes aussi importants. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, forcément, mais vous ne pouvez pas l'exclure d'emblée, j'allais dire, parce que les montants sont trop importants.
Ça a été exclu, mais l'année n'est pas terminée.
Oui, enfin, surtout 2027, on n'y est pas encore.
Oui. Je vous donnerai la parole pour réagir à Laurent Wronski dans un instant. On marque une pause. On va s'intéresser au bilan 2023 de France Travail, qui dément l'idée que les radiations exploseraient et que lorsqu'on annonce des bonnes nouvelles sur le front de l'emploi, c'est en fait parce qu'il y a des radiations alors que le chômage ne baisse absolument pas. Je l'ai quasiment systématiquement lu pendant 3 ans dès qu'on faisait une chronique avec des chiffres sur la baisse du chômage. C'est faux! C'est faux! Vous mentez! Les radiations explosent, voilà pourquoi les chiffres s'améliorent, vous mentez. Eh bien non, on est une fois de plus un chiffre de France Travail qui confirme que tout ça est stable et que la très grande majorité des demandeurs d'emploi portent bien leur nom car ils cherchent bien un emploi. A tout de suite, à tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Sophie Sidos-Vicat, présidente des conseillers du commerce extérieur de la France, les CCE, et également propriétaire du groupe cimentier Vicat, membre du MEDEF Isère. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision à l'OFCE. 0,05% de croissance chez vous, là, pour 2024 Ouh, ça fait mal, ça. 0,5.
Ouais, ça fait mal.
Bah, on est parti sur un 4 de prêve, on est tombé à 1.
Oui, alors d'ailleurs, les 1 ont été révisés par le gouvernement, hein.
Oui.
Passer de 1,4 à 1 avant l'annonce des 20 milliards d'économies supplémentaires.
Et on n'a pas, Bercy n'a pas officiellement révisé encore à la baisse, si ?
Non, non.
Non.
Enfin, le 1, si, oui. Il est acté.
Le 1 est acté.
Le 1 est acté, mais voilà, il n'y a pas eu de nous. On verra dans le PLF, à mon avis, 2025. Mais les 0,5%, pour faire bref, c'est qu'à court terme, on a assez peu de croissance, là, qui est faible. Mmh. Et que quand on regarde l'ensemble de l'environnement macro, 0,5, pareil, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, pas quelque chose d'extrêmement pessimiste, hein.
Laurent Wronski, vous vouliez réagir juste avant la pause. J'ai essayé de lire les réactions des auditeurs, j'ai oublié de le faire pendant la pub.
Oui, je voulais juste réagir par rapport à ce que disait Mathieu. Je pense que finalement, il faut faire l'inventaire entre le bon et le mauvais cholestérol. Oui, financer la transition énergétique, c'est une obligation. Parce que là, on est en train de vivre une révolution industrielle number two. Financer le réarmement de la France, c'est une évidence. Par contre, financer le millefeuille administratif, est-ce que ça, c'est une priorité ? Financer la complexité qui coûte beaucoup d'argent et au budget de l'État et aux contribuables, est-ce que ça c'est une priorité? Donc je pense qu'il y a un vrai inventaire de mauvais et de faux cholestérol, enfin de mauvais et de bon cholestérol à faire. Ça c'est plutôt la bonne nouvelle et je pense vraiment, mon âme et conscience, que c'est assez facile à faire et que tout le monde sait là où il faut faire des économies et là où on peut le faire sans avoir, je dirais, à plonger la France dans le Moyen-Âge. Simplement, ce qu'il faut, c'est du courage politique. Et ça, c'est plutôt une denrée assez rare. Ouais, et évidemment, comme vous l'expliquiez, c'est que il va y avoir des choix à faire. Mais je pense aussi qu'on peut redresser le pays sans avoir à mettre tout le monde au pain sec et à l'eau pendant 10 ans. Simplement, il va falloir le courage de dire, bah non, ça on fait plus. Mettre en place des tas d'administrations qui servent à rien et qui en plus rendent la vie assez compliquée aux gens, bah ça on va arrêter avec ça.
Et Mathieu l'a poliment dit tout à l'heure, mais le
gros. C'est un garçon très poli.
Mais absolument.
J'essaie.
Et l'une des. Une des grosses dépenses, c'est les pensions de retraite. Est-ce qu'il faudra indexer à 100% les pensions en 2025? Un point de non-indexation égale 3 milliards d'économies. Mmh. Bon, bah, si vous faites 2 points de non-indexation, vous avez 6 milliards d'euros d'économies.
Alors, le petit problème, c'est que c'est...
Mathieu Plane.
J'allais dire, c'est beaucoup plus facile à faire quand il y a de l'inflation.
Mmh. Ah bah oui.
Et quand les salaires augmentent peu, ça aurait été même une justification de dire on n'indexe pas parfaitement au moment où on avait plus de 5% d'inflation parce que les salaires, eux, augmentaient aussi moins vite que l'inflation. Or, aujourd'hui, on va être dans l'effet inverse, les salaires vont augmenter un peu plus vite que l'inflation, et l'inflation va revenir vers la 2%. Si vous faites 2 points de moins que 2, ça fait 0.
Oui.
Et ça se voit bien.
Et, oui.
Et, ça, et c'est, ça, ça passe mal. Alors que quand il y a 5,5, par exemple, l'inflation, vous faites 4, vous dites, oui, il y a quand même un effort collectif, vous indexez à peu près comme sur les salaires, c'est plus facile à gérer politiquement. Je pense que là, ça va devenir difficile à partir du moment où on revient dans les coûts de l'inflation. Oui.
Bien. Moi, je ne prends pas le pari qu'il ne se passera rien sur les pensions de retraite en 2025, même si le président de la République, pour l'instant, a exclu...
Politiquement, c'est compliqué, cette affaire, parce que c'est effectivement une catégorie...
C'est ce que j'ai dit à Gabriel Attal jeudi. J'ai dit, oui, je vous comprends, il y a les milliards qui votent et les milliards qui votent.
Exactement. Voilà.
On évite d'aller toucher les minimums.
Mais on verra après les européennes, hein, de toute façon.
Allez, je commence avec vous, Sophie, sur le bilan des chômeurs. La France Travail qui publie, comme tous les ans, le bilan des contrôles. 523 000 contrôles réalisés auprès des demandeurs d'emploi. Une très grande majorité cherche un job. Voilà. Ils sont 83% sur les 523 000 contrôlés à chercher un emploi. Autre point très positif, sur ces 83%, près de 20% étaient des gens qui cherchaient un emploi mais qui étaient un peu largués, on va dire. Et donc, les contrôles ont permis d'identifier qu'ils avaient besoin d'être accompagnés davantage pour être orientés différemment vers l'emploi. Donc ça, c'est un effet positif de ces contrôles. Dans 17% des cas, il y a des sanctions car il y a des manquements aux obligations exigées avec parfois, effectivement, des radiations. Ça vous inspire quoi, ces chiffres? En fait, c'est stable. Voilà.
C'est stable. Alors, deux choses. D'abord, d'un point de vue entreprise, on a toujours du mal à recruter des talents. On ne les trouve pas. Donc ça,
vous avez toujours du mal à recruter?
On a toujours du mal à recruter, partout en France. Mmh. Moi, dans mon MEDEF en Isère, où je suis présidente là, du MEDEF Isère, toutes mes entreprises ont du mal à recruter. Dans tous les métiers.
Toutes
les entreprises ont du mal à recruter. On ne trouve pas les bonnes personnes. On ne trouve plus d'électriciens, enfin tous les métiers, on les trouve pas.
Je fais ce métier depuis 30 ans, j'ai jamais entendu cette rengaine aussi répétée que depuis maintenant, on va dire, 2 ans. C'est incroyable.
Donc les chiffres, les 17%, je trouve quand même que c'est pas un chiffre négligent, c'est pas 2%, c'est quand même 17%, c'est quand même un chiffre important.
Il y a tous les cas là-dedans, il y a tous les cas, c'est pas que du profiteur, vous voyez.
C'est quand même un chiffre qui n'est pas négligeable et qui devrait pas exister, certes, et qui est aux frais de la collectivité. Donc là, c'est quand même pas bien normal. Si on veut des économies, ça passe en effet déjà par là. Plus accompagner ces personnes. Alors c'est vrai qu'on est sur des tas de métiers en transition. On est en train de créer des métiers qui n'existeront pas demain. Peut-être qu'il faut en effet que ces personnes-là puissent se reformer sur des métiers à venir. Il faut les aider. Voilà. Mais le chiffre de 17 me semble quand même un chiffre important et pas négligeable. Je ne me satisferai pas pleinement de ces résultats.
Je suis d'accord avec vous, mais moi j'ai insisté ce matin sur le fait qu'il était stable, parce qu'à chaque fois, quand il y avait plutôt de l'embellie sur le marché de l'emploi, vous aviez toujours des litanies de gens pour vous expliquer que c'était une fausse amélioration. Voilà. Il y avait un trompe-l'œil et que finalement c'était des radiations qui permettaient d'améliorer les chiffres.
On passe notre temps à faire des réformes pour éviter d'avoir ce genre de chiffres et puis en fait il y en a, c'est toujours pareil. Donc est-ce que finalement c'est les bonnes réformes? Est-ce qu'il ne faut pas taper encore plus fort? Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que du côté entreprise, on a du mal à recruter.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que Gabriel Attal, il a confirmé une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Et il a également, c'était jeudi sur BFM TV, et il indique aussi qu'il veut tripler le nombre de contrôles. À 2027, monter à 1,5 million de contrôles.
Ah oui, je trouve que c'est une bonne solution, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit contrôlé dans l'entreprise et pas contrôlé ailleurs. Je pense qu'en effet, il faut être honnête. Et ça passe par des contrôles.
On faisait le calcul avec Emmanuel Le Chip ce matin. Bon, là, il y a eu 523 000 contrôles. Mais si on prend toute la catégorie A de Pôle emploi, il y a à peu près 3,5 millions de personnes en catégorie A de Pôle emploi, ceux qui n'ont pas du tout travaillé. C'est pas négligeable, ça fait pas loin de 500 000 personnes concernées, effectivement, par des manquements plus ou moins sérieux et plus ou moins répétés aux obligations exigées par le régime d'assurance chômage. Ce bilan-là, Laurent Vronsky, qu'est-ce que vous voulez m'en dire?
Écoutez, ce que je trouve assez édifiant, je veux pas être impertinent, mais je veux dire que quand je vois les chiffres, quand je lis l'étude, je me dis, mais on n'est pas dans le même pays, on n'est pas sur la même planète. Parce qu'effectivement, c'est ce que Sophie vous a expliqué, mais c'est pareil dans toutes les villes de France. Vous allez à Paris, vous allez n'importe où, je veux dire, l'une des trois préoccupations majeures des chefs d'entreprise, c'est de trouver du personnel. Et on n'a pas besoin que de spécialistes en IA, hein. Bon, donc si vous voulez, je me dis, c'est quand même incroyable, on manque de gens pour conduire les camions, on manque de gens pour garder les enfants, on manque des gens pour assurer du service de base, donc il n'y a pas besoin d'avoir une formation BAC plus 25. Je veux dire, c'est des choses assez simples. Et d'ailleurs, la preuve en est, on a tellement besoin de ces gens-là qu'on les fait venir d'ailleurs. Bon, donc je me dis, il y a quand même un truc qui est incroyable. On a des entreprises qui n'arrêtent pas de dire, depuis maintenant, allez, on va dire une petite dizaine d'années, enfin, ça s'est accéléré avec le Covid, on trouve pas ci, on trouve pas ça. On a beaucoup de gens qui cherchent un travail, et entre les deux, nous avons une administration qui, d'ailleurs, change de nom tous les 3-4 ans, et qui dit, bah voilà, moi je vais mettre en rapport, je vais faire la marieuse, et je vais trouver monsieur et madame. Bon, et on est toujours avec les mêmes chiffres. Donc voilà un exemple, peut-être de quelque chose qu'il faut repenser entièrement. Parce que clairement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de demande pour des gens qui veulent travailler. Et il y a des gens qui veulent travailler. Bon, c'est quand même, je dirais, un paradoxe.
Je dois reconnaître que...
En tout cas, ça ne correspond pas à ce que moi je vois.
Hein. Avoir autant d'offres d'emploi non pourvues, même si ce n'est pas un chiffre non plus qui explose, et puis effectivement, une difficulté à réduire ou à améliorer le marché de l'emploi.
Vous m'autorisez une petite question?
Mais allez-y.
Juste pour ma culture personnelle, justement, si tout le monde cherche un job, pourquoi est-ce que M. Attal veut tripler le nombre de contrôles?
Probablement pour rendre le système plus efficace. Voilà, j'imagine. Alors, j'ai des réactions, évidemment, dès qu'on parle des retraites. Alors, il s'appelle Romain. Et il me dit, cher Nicolas, pourriez-vous me dire combien perçoit de la CNAV un retraité qui a cotisé trois plafonds de sécu toute sa vie? Quand vous aurez trouvé la réponse, ça vous évitera peut-être de taxer toutes vos émissions sur la TAF, enfin, de vouloir attaquer les retraités dans toutes vos émissions. Ils vivent mal, mais d'abord, ouais. J'attaque pas. Moi, je dis simplement qu'il y a des choses qui se produiront probablement et c'est pas moi qui décide en plus. Oui, Laurent, vous voulez.
Oui, alors moi, j'ai pas les compétences techniques pour répondre précisément.
Non, moi non plus.
Mais effectivement, dans ce qu'il dit, il y a quelque chose que je dirais, il y a quelque chose qui sonne, je dirais, un petit peu, qui sonne vrai. Je veux dire, les retraités, c'est pas des privilégiés. C'est pas des gens, je dirais, qui tout d'un coup ont gagné une martingale. C'est des gens qui toute leur vie ont cotisé. En plus, on leur a pas demandé s'ils voulaient le faire. Je rappelle qu'en France, le système, il est obligatoire. Donc, ils ont suivi les majorations, les trucs, tout ce que vous voulez, auquel d'ailleurs personne ne comprend rien, soit dit en passant. Et après, ils quittent le monde du travail, ils vont dans le monde de la retraite, et ils ont droit à une retraite. Alors, ce que je pense, et je dis pas ça pour être particulièrement sympathique, mais je veux dire, avant de s'attaquer à ça, il n'y a pas des sujets plus importants. Je veux dire, avant de culpabiliser les gens qui sont des retraités, il n'y a pas des sujets plus importants. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, la différence entre un homme d'État et un homme politique, c'est que l'homme politique, il gère la prochaine élection, et l'homme d'État, il gère ce qui est bon pour le pays. Alors moi, je dis, ayons plus d'hommes d'État et moins d'hommes politiques. Et je pense qu'on fera sans doute un inventaire du bon et du mauvais cholestérol qui sera très différent.
Je suis retraité, m'écrit Pierre, d'une pension de 3200 euros par mois. Je suis prêt à mettre 30 euros tous les mois pour redresser la France, ça ne me gênerait pas. Il faut arrêter d'avoir peur des retraités, écrit-il. Bon, ça vous inspire une réaction, le France Travail, le rapport annuel là sur les contrôles, Mathieu Plane.
Une réaction, c'est vrai que le... C'est quoi 17%, c'est ça hein?
17% de gens qui ont été sanctionnés.
Alors j'ai vu qu'il y avait un chômeur sur deux à France Travail, enfin Pôle emploi, qui était non indemnisé.
Oui,
aussi,
mais ça aussi stable aussi, oui.
Ça reste stable, voilà. En fait. Ce qui est un peu surprenant, c'est que, dans les statistiques, c'est que, justement... Les personnes qui cherchent pas activement un emploi, en tout cas, sont presque plus élevées que celles quand vous faites le tirage aléatoire. C'est-à-dire, j'ai regardé, en fait, quand il y a le tirage aléatoire, par exemple, quand tu vas avoir une enquête hein, sur une personne, en fait, c'est tiré de façon aléatoire. Et il y a des enquêtes, en fait, ciblées,
oui.
Notamment sur les métiers en tension.
Absolument.
C'est un peu particulier.
Ils ont différents types
je trouve qu'effectivement, ils retrouvent un nombre de chômeurs qui ne seraient pas suffisamment actifs dans les métiers en tension, ce qui pose quand même question. De la réconciliation entre les besoins d'emploi de ces métiers en tension et un certain nombre de personnes peut-être qui ne font pas les démarches ou en tout cas suffisantes. Bon, c'est une vraie question, hein, ces métiers en tension. C'est vrai qu'on a eu aussi, là, depuis deux ans, un nombre de créations d'emplois records. On est pratiquement, hein, depuis maintenant, 2017, à plus de 2 millions.
Il faut le répéter, Mathieu, parce que beaucoup pensent que c'est pas vrai.
Non, mais c'est vrai. Alors, nous, notre intrigue, elle est pas sur le chômage, en fait. Elle n'est pas sur le chômage. C'est effectivement qu'on a créé énormément, massivement des emplois comme jamais en France, malgré les difficultés de recrutement. Donc, on a quand même réussi. Ça veut dire que ça a aussi contribué aux difficultés de recrutement et aux tensions sur le marché du travail. La question, c'est comment on a fait pour créer autant d'emplois avec si peu de croissance. C'est toujours le fameux dilemme et le paradoxe de la productivité.
C'est
beaucoup aujourd'hui.
Baisse de la productivité.
Et baisse de la productivité. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le marché du travail est très dynamique. La mauvaise, c'est qu'il y a des tensions et qu'on a des difficultés de recrutement. Mais la très mauvaise nouvelle, c'est qu'on a un choc très négatif sur la productivité et du coup sur la croissance potentielle. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop comment on va le résoudre, cette affaire-là. On espère, enfin bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais du coup, la question du chômage, j'allais dire, elle est importante, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit fondamentale dans cette histoire. On peut essayer d'améliorer, bien sûr, l'appariement, ce qu'on appelle l'appariement. On voit bien qu'on a des problèmes, quand même, problématiques de formation dans certains cas, qu'on a des tensions. Je pense qu'il y a des problèmes d'attractivité aussi de certains métiers. On l'a vu, hein, il y a eu des rapports là-dessus. Hein. Effectivement, il y a le problème du logement, de l'immobilier aussi. On voit bien que vous n'allez pas faire changer. Quand il y a des bassins d'emploi qui sont plus ou moins attractifs, mais aussi qui posent des difficultés de logement pour certaines personnes. Bon, il faut réfléchir à tout ça, mais j'allais dire fondamentalement, la singularité française, elle est vraiment sur cette perte de productivité et ces créations d'emplois qui ont été quand même très dynamiques ces dernières années. Hein.
Bon. Ça fait partie des espoirs du gouvernement, d'ailleurs, pour réussir à tenir le cap 2027 avec les 3% de déficit, c'est que cette productivité serait de retour ou va revenir. Alors, ça,
je trouve ça mais alors, je vais vous dire un truc, c'est pour le coup, c'est mécanique d'un point de vue macro. C'est si vous avez une faible croissance et des gains de productivité, ça se traduit par des destructions d'emplois.
Oui.
Et le chômage va remonter. En fait, c'est un peu notre prévision, mais c'est-à-dire qu'on va avoir un retour des gains de productivité, mais avec une croissance modeste, fait qu'en fait, on aura un rétablissement. D'ailleurs, vous voyez, pendant les 3 dernières années, on n'a jamais eu aussi peu de faillites en France. Alors qu'on a eu un choc macroéconomique qui est massif,
parce que
le quoi qu'il en coûte a été particulièrement généreux, que certains secteurs ont été certainement surprotégés, et donc vous avez une forme de zombification de l'économie, des entreprises qui ont réussi à se maintenir avec des taux bas et des subventions, en gros. Et aujourd'hui, en fait, c'est un peu l'heure des comptes. Vous retrouvez rétablissement des comptes publics, coût de la dette qui augmente, difficultés pour les entreprises qui sont endettées. Et en fait, on le voit, potentiellement un retour assez fort des faillites. Et ça, c'est, j'allais dire, c'est des gains de productivité par le bas. C'est vous éliminer les plus mauvais. Mais ce n'est pas lié à l'innovation. C'est pas parce que vous avez introduit l'intelligence artificielle.
Mais effectivement, dire qu'on va avoir des gains de productivité qui vont revenir et qu'en même temps on va créer des emplois, c'est probablement pas ce qui va se passer.
Ou alors il faut beaucoup de croissance.
Il faut beaucoup de croissance. Laurent, vous vouliez réagir, après j'avance sur la simplification. Je commenterai par Sophie sur la simplification. Faites pour elle.
Moi je suis très optimiste sur ce sujet-là.
Sur quel sujet?
Sur la productivité, la création de richesses. Moi je suis très optimiste parce que je vois le nombre d'entreprises qui ne peuvent pas croître et qui résolument ne veulent pas croître ou acheter une nouvelle usine parce qu'elles ne trouvent pas de personnel. Je me dis que si on arrive finalement à satisfaire la demande en termes de demain, je veux dire, on a un avenir radieux. Je veux dire, aujourd'hui, pour beaucoup de sociétés, on n'est pas confronté à un problème de demande de nos produits. On est confronté à un problème de capacité, tout simplement. Donc c'est quand même un comble. Donc là, moi, je suis assez optimiste.
Cette loi est faite pour vous, Sophie. Elle arrive. Enfin, alors, c'est la loi sur la simplification. On va en savoir plus cette semaine. Il y a pas mal de choses déjà connues. Donc, assouplir les processus administratifs, c'est un peu vague, ça. Appliquer le principe, dites-le nous une fois. Vous nous avez dit un jour un truc à l'administration, c'est bon, c'est enregistré, on vous demandera plus jamais de le répéter. Pré-remplir les CERFA avant la disparition des CERFA en 2030. Bon, j'ai envie de dire à condition qu'on ne les remplace pas par autre chose. Simplifier les bulletins de salaire, est-ce que c'est vraiment une simplification à vérifier, passer de 2 à 1 mois le délai légal quand on doit informer ses collaborateurs qu'il y a un projet de cession de l'entreprise, mettre en place le test PME, un pool de PME va tester une mesure avant qu'on décide de l'appliquer définitivement, mensualiser les loyers des baux commerciaux, souvent étalés sur 3 mois, et plafonner le dépôt de garantie à 3 mois de loyer, et pas plus de 3 mois de loyer, relever le seuil qui impose d'informer l'autorité de la concurrence de l'acquisition d'une autre société. Voilà. Est-ce que vous vous dites, ça y est, jour J, heure H, enfin la simplification, Sophie ?
Pas vraiment, là, je sais pas. C'est des mesurettes pour l'instant. Enfin, on voit rien de concret. Il faut d'abord avoir beaucoup plus de mesures. Il faut alléger tous les domaines.
C'est pas
complet. Mais j'espère, parce que là, il n'y a rien du tout.
Il faut
vraiment alléger, parce que c'est plus possible aujourd'hui. On n'arrête pas d'avoir des couches supplémentaires dans le millefeuille. La loi, toujours, je vous en parle toujours, de cette loi ZAN, la zéro artificialisation nette des sols. On ne peut plus construire d'usines parce que tout est compliqué. On ne peut plus se développer et parallèlement on nous parle de simplification, mais elle est, enfin, aujourd'hui moi sur le territoire je la vois pas, la simplification. Alors tout le monde a donné beaucoup d'idées, j'espère que ça va arriver, même pour la balance du commerce extérieur de la France. Franck Riester nous a demandé des idées en matière d'exportation, comment on pouvait simplifier et accélérer notre exportation. Ça commence d'abord par construire des usines et avoir des biens à exporter. Mais c'est vrai qu'on peut simplifier, mais c'est une simplification qui va encore être européenne, donc je pense que ça va prendre du temps. J'y crois pas tellement, malheureusement. J'aimerais bien y croire, mais je vois pas très bien comment on va pouvoir nous supprimer demain la CSRD, la ZAN, toutes ces réglementations qui en fait nous empêchent d'avancer aujourd'hui, c'est clair.
J'entends énormément de critiques sur ce ZAN, ce zéro artificialisation nette des sols, qui prévoit avec des agendas des durcissements de sanctions pour préserver les sols de toute intervention humaine, on va dire. Sauf que visiblement, il y a presque déjà on va presque plus vite que l'agenda prévu dans la mise en place de ce ZAN. Bon, vous y croyez pas, mais le texte, il n'a pas vu le jour encore, hein, Sophie.
Non, il n'a pas vu le jour, mais j'espère qu'il y aura, il y aura quand même plus de mesures, parce qu'on a vraiment besoin d'un regain d'activité, de diminuer toutes ces paperasseries. Pour les entreprises, c'est plus possible de... Il faut simplifier. Alors, on parle de... Ça fait presque un an maintenant qu'on parle de simplification, donc à un moment donné, il faut quand même voir le jour, il faut que la souris accouche, et on attend vraiment de voir ce qui va se passer.
Ça arrive, là. Je crois que c'est vraiment ces jours-ci. Hein. Cette loi est faite pour vous aussi, Laurent Wronski.
D'abord, est-ce qu'elle est simple, cette loi ?
je crains que ce soit un catalogue. Voilà. Ouais. C'est un peu comme la finance publique. Enfin, les comptes, il n'y a pas le bouton magique. Quoi. Ouais. Et donc, c'est comme l'efficacité de la dépense publique. S'il y avait la réforme qui faisait que, non, malheureusement, il n'y a pas la réforme qui fait que. Ça va être un catalogue énormissime. Là, je vous ai donné des mesures, mais il y en aura évidemment plein d'autres. Et...
Ouais, je pense que c'est exactement le même remède que la dépense publique. D'ailleurs, ça fait partie de la dépense publique. C'est que on est arrivé à un tel stade de suradministration, mais à tous les niveaux, hein, c'est pas que les entreprises. Je veux dire que tout le monde le voit. Il y a une loi sur tout. Il y a un règlement sur tout. Et pour couronner le tout, il y a une norme sur tout. Et comme ça, c'est pas encore assez, allez hop, on met une couche de surtransposition européenne. Tout est administré. Bon, donc je pense qu'on a atteint un tel niveau d'ankylose que là, on n'en est plus à dire, tiens, on va supprimer ça et on va tirer tel tiroir. Il faut prendre une page blanche. C'est ça la bromède. C'est ce qu'on fait dans les entreprises. On part d'une page blanche et plutôt que de se dire, parce que parfois c'est plus compliqué de réorganiser que d'organiser. Et on dit, voilà, maintenant, qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qu'on doit absolument avoir ? Et combien ça coûte à côté ? Et je pense que si on faisait l'exercice, ça ne manque pas de comité Théodule en France, si on comparait ce qui est nécessaire avec ce qui est présent, je pense qu'on aurait des vraies surprises. Après, il faudra, bien évidemment, pour tracer les points, il va falloir du courage politique.
Alors justement, je pense, au début, je prenais ça à la rigolade, parce que Guillaume Poitrinal, que vous connaissez, avait fait partie justement du premier tandem dédié à la simplification sous François Hollande, avec Thierry Mandon. Il en a tiré quand même d'abord des déceptions par rapport à ce qu'ils avaient tenté de faire et ce qu'ils ont réussi à obtenir. Et il était... Comme vous le savez, c'est l'administration tentaculaire qui fait que c'est très difficile de simplifier. Et Guillaume Poitrinal m'a dit, un jour dans cette émission, mais ça a été repris par un autre invité, le seul moyen, si on veut parvenir à un résultat, c'est qu'il faut une task force installée dans le bâtiment de l'Élysée, au premier étage, dépendant exclusivement et directement du président de la République. Sinon, c'est impossible de réussir à simplifier. Ce qui veut dire que le sujet est justement si complexe que les impulsions doivent venir du sommet de l'État absolument directement, en coup de fil direct.
Alors, un petit complément par rapport à ça.
Je pense qu'il a raison. Au début, je me suis dit, tiens, c'est folklore, j'imagine le premier étage de l'Élysée, avec une banque de 45 Ugus qui ne font que ça du matin au soir. C'est peut-être ça la seule solution.
Alors, je vais faire un complément de proposition, parce que je pense qu'évidemment, on ne peut pas demander à des gens de réformer le système dont ils vivent. C'est une évidence, c'est du bon sens. Donc je pense qu'il faudrait créer cette équipe de travail avec des gens qui n'ont aucun mandat politique, aucun poste dans la fonction publique et qui agissent un petit peu vraiment comme un commando d'intervention. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, vous êtes là pour 5 ans, vous avez une mission, vous allez réformer le système.
Mais tu as intérêt à avoir des sacrées compétences dans ta task force, parce que les sujets sont techniques.
Oui, mais je veux dire que souvent, écoutez, nous, enfin, tout le monde le voit à son niveau, je veux dire que ça soit l'administration locale, l'administration régionale, je veux dire, on voit les surcoûts, je veux dire que finalement, on voit des tas de trucs, je suis désolé, mais on se dit, mais à quoi ça sert ? Et il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA et d'avoir Bac plus 25 pour savoir ce qu'il faut faire. Par contre, il faut être courageux.
Nicolas, c'est la mission des conseillers du commerce extérieur de la France. C'est ce que nous faisons. Nous remettons au pouvoir public des rapports très régulièrement sur des améliorations apportées sur tout ce qui se passe en France. C'est notre mission.
On vous écoute ?
Pas toujours.
Quelquefois ?
Mais on nous écoute quelquefois, exactement. Bon. Dans le plan export, on a repris sur les 13 points, il y avait 10 points proposés par les CCE. Oui, on nous écoute. Mais pas toujours. Voilà. On nous écoutait un petit peu plus. C'est des chefs d'entreprise qui parlent, en toute honnêteté.
Oui, parce que c'est important.
Mathieu Plane, oui.
Non, sur, voilà, j'imaginais ça, mais c'est un peu...
60 milliards d'euros par an, le surcoût lié à la complexité, d'après les rapports qui avaient accompagné la loi Pacte.
Vous rendez compte ?
Juste lunaire. Voilà.
Lunaire, voilà.
Non, mais c'est vrai que ça serait... Enfin, un peu comme pour les Gilets jaunes, il y avait des cahiers de doléances. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir aussi les retours du terrain, en réalité, parce que c'est quand vous êtes concrètement sur le terrain, je pense que vous voyez les difficultés que peut entraîner justement ces difficultés administratives, quoi, en réalité. Et quelles sont les solutions? Il faudrait des itérations, peut-être ça existe, beaucoup plus fortes avec l'administration, j'imagine. Enfin, des allers-retours et essayer de converger. Parce que le problème aussi, c'est qu'on risque de rentrer dans un monde aussi qui est de plus en plus contraint sur des normes, hein, et notamment avec la question des normes environnementales. On voit bien avec la question de la transition énergétique et écologique. Ce qui pose, c'est comment la rendre aussi acceptable du côté des entreprises, des citoyens, sur un certain nombre de choses. Où est-ce qu'on peut gagner en simplification? Mais il y a dans d'autres coins, on va pas gagner en simplification, parce que forcément, la transition conduit à des contraintes aussi plus fortes. Mais sortons des, effectivement, de tous ces tracas administratifs qui n'ont pas d'efficacité ou pas d'utilité. En tout cas, c'est vraiment ça. La question, j'ai l'impression que ça fait quand même des années dont on en parle. Vous parliez de Thierry Mandon.
Oui.
Trinal, c'était à 10 ans.
Oh, Largos, oui, bah, c'est sous
François Hollande. Voilà, le choc de simplification. François Hollande, il parlait d'un choc de simplification. Bon, bah, force est de constater que le problème est toujours d'actualité. Quoi.
Alors, il y a cet auditeur qui me parle des friches SNCF. Oui, effectivement, ça fait partie des possibilités. C'était l'un des engagements, d'ailleurs, du gouvernement. Il y a eu une petite avancée la semaine dernière, l'histoire des friches clés en main, pour régler ce problème de foncier, Sophie, et la mise en place d'une sorte de plateforme web, un peu une sorte de seloger.com de la friche industrielle, qui doit, en théorie, être en train de voir le jour. Vous vouliez dire quelque chose?
Oui, une dernière chose. Il faut bien comprendre une chose, c'est que les ministres passent, mais les corps intermédiaires restent.
Oui, oui.
Bon. Et que entre celui qui pense la réforme et puis celui qui doit en bénéficier, ben, entre les deux, vous avez les corps intermédiaires. Et beaucoup de ces corps intermédiaires vivent de ça. C'est-à-dire, c'est la justification de leur existence. Donc, vous ne pouvez pas demander à ces mêmes personnes de scier la branche sur laquelle ils sont assis. C'est pour ça que, vu l'étendue du problème, et encore une fois, j'insiste, ce n'est pas une question de complexité, c'est une question de courage. Et que les gens qui sont au pouvoir ne veulent pas prendre des décisions impopulaires ou qui pourraient éventuellement nuire à leur réélection. C'est aussi simple que ça.
En plus, souvent, ce qui est terrifiant, c'est quand vous discutez... Enfin, c'est souvent, une fois qu'ils ont été ministres, quelques années après, qu'ils racontent un peu comment ça se passe. En fait, le ministre, il n'a pas tant de pouvoir que ça. Parce qu'il prend une décision, et puis entre la décision qui est prise et les décrets d'application, il y a quelquefois des grands écarts. Hein, même quelquefois, les décrets vont à l'envers de ce que voulait le politique initialement dans le texte voté. Mais bon.
Surtout, il passe, quoi. Le ministre, une espérance de vie beaucoup plus courte.
C'est ça.
Bon, c'est pas le même temps. Hein. Dans l'entreprise, le temps, c'est le temps long. Moi, quand j'achète une carrière, c'est pour 100 ans minimum. Hein. C'est pas pour 3 ans, 5 ans ou 7 ans. Hein. Donc. C'est la différence entre l'entreprise qui va perdurer et rester et puis le gouvernement qui va changer.
Ah, j'ai 2 minutes 30. On a eu un événement de plus la semaine dernière, l'histoire des panneaux solaires, l'un des derniers grands fabricants français, Laurent Vronsky, qui est allé au tribunal de commerce de Nanterre. Il a carrément dénoncé la concurrence déloyale de la Chine et c'était la raison pour laquelle il allait au trépas. Ouais. Et il y a un moment, on se dit, est-ce qu'on dit il y en a marre et on se relève un peu les manches en osant une forme de protectionnisme pour préserver une partie industrielle qui est menacée par des pays n'ayant pas les mêmes normes sociales et environnementales que les nôtres.
Mais il a raison.
Il
a complètement raison et c'est complètement anormal que ce genre d'entreprise dépose le bilan. Et là, vraiment, l'État devrait les aider. On n'a pas de barrière aux frontières. On laisse rentrer aujourd'hui, en veux-tu, en voilà, des voitures électriques toute la journée. On laisse rentrer des panneaux solaires. On est en train tous de s'équiper en panneaux solaires chinois. Et franchement, c'est pas normal. C'est pas normal.
Alors certains économistes vous diront, mais Sophie Sillos-Vicat, vous êtes protectionniste.
Oui, et bien, oui. Il faut protéger notre entreprise, il faut protéger notre économie et il faut absolument aider ce genre de patron qui n'arrive pas à s'en sortir parce qu'il lutte contre une concurrence complètement déloyale. Et vis-à-vis de la Chine, il faut être fort, il faut leur dire non. Il faut augmenter les taxes sur les voitures électriques encore plus, même si ça nous coûte sur le cognac, j'espère pas, mais il faut arrêter de tout le temps baisser la culotte devant eux. Ben non.
Donc quand Bruno Le Maire décide que le bonus écolo ira à une voiture made in Europe, ou quand il décide que les aides d'État pour la pompe à chaleur iront à des pompes à chaleur made in France ou made in Europe. Oui,
c'est ce que font les Américains.
Oui, c'est ce que font les Américains.
Ils ont le Small Business Act, vous avez un contenu en valeur ajoutée important dans toute commande publique. Il y a effectivement la subvention avec l'IRA, il faut quand même être fabriqué aux États-Unis tout un certain nombre d'éléments liés à la transition. Et la Chine subventionne quand même massivement son industrie.
Et le
problème, c'est qu'on part de très loin sur la question des panneaux solaires. Ça, c'est un autre problème. C'est comment créer une filière qui soit compétitive, effectivement, si le dernier producteur en France ferme. Mais ça veut dire, du coup, effectivement une réponse forte, mais ça veut dire que les pouvoirs publics doivent intervenir massivement sur ce sujet-là, si on considère qu'il est essentiel. Mais on part de loin.
Bon, c'est pas de très loin. On a un débat là.
Et ça va coûter cher.
Mot de la fin, Laurent, là-dessus.
Oui, je pense que le mot-clé, c'est déloyal. Et le problème n'est pas, je dirais, d'assurer le libre-échange. Parce que je rappelle aussi qu'il y a énormément d'entreprises françaises qui dépendent du commerce extérieur et qui dépendent des exportations. Il ne faut pas croire un instant que si nous, on devient protectionniste, que les autres ne vont pas l'être. Simplement, dans certains cas, il n'y a pas d'arbitre sur le stade. Et c'est là où il faut se poser la question.
Et surtout quand vous utilisez des centrales à charbon et que nous, on essaye de décarboner notre industrie. Bon voilà, enfin, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent derrière.
Je vous posais la question pour terminer, on en parle souvent et puis j'ai fait un débat régulièrement avec Jean-Marc Daniel qui n'est pas de votre avis, vous le savez.
Ah non. Ah non.
Bon, eh bien écoutez, merci à vous tous d'avoir été là pour ouvrir cette semaine. Sophie Silos-Vicat, Mathieu Plane, Laurent Vronsky. Je vous rappelle que vendredi, on saura si on est dégradé ou pas. Voilà. À demain 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.